Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Moshe Maurice Ben Amou Ben Maha, de mémoire bénie, donc, dont c'est le Yortzeit aujourd'hui, l'anniversaire du décès. Alors j'ai un très beau scoop pour raconter. Moi ça m'a super mis en tension. Vous savez que nous attendons le Mashiach avec impatience. Il faut comprendre que tout le décor est prêt. Tout est prêt. C'est écrit que Gog, roi du pays de Magog, viendra du fond du nord. Yeheskel, chapitre 38, fond du nord, c'est la Russie. C'est marqué là-bas, Nessi Roche Meshech Etuval, président à la tête de Meshech Etuval, deux villes, Meshech Etuval. Je dis dernièrement, c'est un Yerushalmi, un temple de Jérusalem. Il dit Meshech, il dit le nom de la ville, mais ça a été écrit en 250 de l'ère chrétienne. Et un commentateur d'il y a quelques siècles, le commentateur du Yerushalayim, le Pnei Moshe, il dit Moscou. Ça correspond Mesher, Moscou, c'est les mêmes lettres exactement. Toubal, quelqu'un m'a dit une fois avec beaucoup d'intelligence, c'est Tbilissi, la capitale de Géorgie, qui est aussi juste au nord d'Israël. Maintenant, quand tu lis les textes, depuis Yeheskel, ça date d'il y a 2500 ans, le prophète Yeheskel, comment la Russie vient à Jérusalem, il doit venir conquérir Jérusalem. Donc ici, toutes les collines, tout ça, là, des millions doivent arriver à Jérusalem, et là, Dieu se dévoile, et patatras, terminé. Pour pas que vous ayez peur, il faut que ça ait lieu. C'est impossible autrement. Il doit venir et mourir à Jérusalem. Ça va un petit coup de la shrina, je ne sais pas exactement ce que c'est. On m'a dit au don du Rabbi Lubavitch, moi j'en veux en tout cas personnellement du Rav Ben Sona Bachar Zatzal, qui m'a dit, il y aura Gog ou Magog. Mais il a dit, à mon avis, sans souffrance. Parce que ce qui est écrit, les souffrances de Gog ou Magog, c'est terrible. C'est terrible de terrible. Lui, il a dit, sans souffrance. C'est pas qu'on n'aura pas peur, on va, oulalalala, les prières, ça va être les plus belles prières de l'histoire. Mais dans la HM, il n'y aura pas d'effusion de sang, on espère. On espère. Dati, je pense comme ça. En tout cas, quand tu lis ça, jusqu'il y a quelques années, comment la Russie vient en Israël, entre nous et Moscou, il y a quand même pas mal de pays, et pas des petits pays de rien du tout. Tu avais la Syrie, super solide, tu avais l'Irak de Saddam Hussein, et ils vont faire barrage. Mais Dieu, il a dit, ils viendront. Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Eh bien, il fait du ménage. Saddam Hussein, on le dégage. Et je rappelle qu'en 2009, dans le journal Le Point ou L'Express, ils ont raconté que Bush, quand il est venu attaquer, en 2002, il a fait donc la deuxième guerre du Golfe, il a appelé Chirac au téléphone, lui dit, viens avec moi faire la guerre, je suis en train de faire Gog ou Magog au Moyen-Orient. Et Chirac, il a dit, de quoi il parle, Gog ou Magog? Il a appelé les curés, on dit qu'il a appelé le Rav Yosef Citruc, et on lui a expliqué, d'accord, c'est tous les phénomènes de fin de temps, c'est juste, c'est marqué. C'est marqué dans la Torah, dans la fin du procès de Bilham, c'est marqué que des flottes armées viendront de Kittim et vont persécuter les Assyriens. Assyriens, c'est l'Irak. Deuxième acte, ils vont persécuter ceux qui sont vers l'autre côté du fleuve. Donc l'autre côté du fleuve, c'est l'Euphrate, Rachid dit l'Euphrate. L'autre côté, c'est l'Iran. D'accord, ça c'est le prochain acte qui aura lieu bientôt avec l'aide de Dieu. La Syrie, ben, c'était comme un super grand pays, très puissant, notre ennemi numéro un, balayé. Guerre civile, terminée. C'est écrit dans le traité Sanhedrin, page 88 A et B, je racontais très souvent, que je ne vais pas faire toute l'histoire avec Gamara, en tout cas Rashi nous dit là-bas qu'à Gog ou Magog, la Perse va conquérir l'Irak, et tout l'Irak va être rempli des armées perses. Et de là-bas, ils viennent et conquissent Israël. Benjamin Netanyahu crie sans cesse, on ne laissera pas les Perses, donc les Iraniens, s'installer en Syrie à la bord de la frontière. On m'a encore dit ce matin, il s'est planté. Il a peut-être touché 10%, 20%, mais ils sont là-bas. Il y a quelques mois, c'était écrit déjà, il y avait 90 000 milices iraniennes. Puis sans cesse, ils ramènent, d'accord. Des fous de Dieu. Et l'Iran, c'est un grand pays. Et la mission numéro un de l'Iran, c'est annihiler, éradiquer Israël. Et aujourd'hui, la route, elle est libre. Il y avait l'Irak qui empêchait. Ils ont fait une guerre entre 80 et 87, des millions de morts. C'est fini, Saddam Hussein est parti. Et moi, j'ai dit, même à l'époque, j'ai dit, ok, c'est très gentil. C'était qui à l'époque? C'était Bush, d'accord? Ils ont liquidé Saddam Hussein. Mais qui vont être à la place des Américains? Ils vont pas rester là-bas, les Américains. Ils vont partir. Qui va rentrer? Les Perses. Moi, je connais la Gemara déjà depuis longtemps. Il y avait la Syrie qui est encore bon. La Syrie, patatras de nouveau. Bah, tu vois, ça, c'est clair. La route est libre, le décor, tout correspond. Maintenant, c'est écrit que quand Mashiach vient, la même année, il y a des querelles en tous les pays du monde. D'abord, grande querelle entre le roi de Perse et le roi d'Arabie. On y est. Le roi d'Arabie va prendre conseil chez Edom, c'est l'Occident. 350 milliards, la plus grande vente d'armes de l'histoire. L'Amérique vend, Trump vend à l'Arabie Saoudite. Tous les pays sont en querelle. Aujourd'hui, tu prends le journal, mais c'est dément. Alors, on parle de nous avec l'Iran, la Turquie avec l'Amérique, la Russie, maintenant, ils ont arrêté ils avaient un accord de non-prolifération de missiles, ils ont fait. Les États-Unis ont envoyé un missile, Poutine a répondu, on va envoyer la réplique. La Chine, la guerre économique avec l'Amérique, la Chine avec Hong Kong, la Chine avec les îles, etc. Kim Jong-un qui, de nouveau, il envoie ses missiles. L'Inde avec le Pakistan, les deux, ils ont la bombe atomique. On est sous une poudrière. Il faut une petite étincelle, et il y a tout qui pète. On ne veut pas que ça pète. Mais c'est écrit que ça va péter. Alors, ça peut péter, j'espère, en guerre économique. C'est marqué, 2/3 du monde vont disparaître. Alors moi je dis, on a un principe dans le Torah qui dit, « Ani chashuv kemet », un pauvre est considéré comme un mort. Alors, ça se peut qu'il y aura une grande crise économique. J'y arrive. Maintenant, si tu veux que non, il faut que ça soit une vraie guerre terrible. Pourquoi les peuples se mettraient en guerre comme ça? Il suffit de pas beaucoup, mais on sait. Les dernières guerres mondiales ont été provoquées par des crises économiques. Alors, ça fait déjà longtemps qu'on nous parle d'une crise économique. Là, on m'a envoyé dernièrement un petit article, apparu dans Le Parisien. L'ex numéro 2 de la Bourse de New York tire la sonnette d'alarme. Selon lui, il faut se préparer à vivre une crise financière mondiale sans précédent d'ici fin 2020. C'est une mise en garde, une alerte en bonne et due forme. L'ancien numéro 2 de la Bourse de New York, George Hugues, craint le pire. Cette fois-ci, les banques ne seraient pas en cause. Georges Hugues vise le surendettement des pays industrialisés. Il estime que les États-Unis ont pu emprunter dans des conditions excessivement favorables et ne sont pas privés. Donc tous les États ont pris beaucoup d'argent à crédit, il faut rendre et personne ne peut rendre. La bulle, qu'est-ce qu'on en fait? Personne ne peut la rendre. Alors on la met, elle monte à la fin et boum, patatras. Conséquence, des pays comme l'Italie, la France, les États-Unis et le Japon sont arrivés à un niveau d'endettement qui n'est plus soutenable. Contrairement à 2008, la société n'a actuellement plus d'amortisseurs pour encaisser un nouveau choc. Elle est sur les rotules. Entre le chômage de masse, les taux de prélèvement obligatoires, la France est championne dans cette discipline, nous dit M. Georges Hugues, qui est américain. Un constat qui devrait entraîner d'ici la fin 2020, un tsunami financier. Georges Hugues estime que ce qui est arrivé à Lehman Brothers, donc la crise de 2008, c'est lilliputien à côté de ce qui nous attend. Lilliputien. Lilliputien, petit, un grand Gulliver, je sais pas. Bon, tout ça, on est au courant depuis pas mal de temps. Et là, sur Internet, on m'a envoyé hier, on dit, je comprends pas. Ça, c'est mon scoop, monsieur, extraordinaire. Une vidéo du Rav Chaim Kanievski. On lui pose la question. Une question donne une réponse. Ça va, on peut encore comprendre la réponse. Deuxième question, il réfléchit et donne la réponse. Et là, incompréhensible. Première question, on les pose comme ça.
Il y a des élections encore un peu plus de semaines. Et il y a des gens qui peuvent voter, ils ont le droit de voter et ils sont en dehors de la terre. Donc ils ont la possibilité d'aller à la terre ou à la soukès ou à les élections. Ils se demandent ce qu'il
y a les élections dans 10 jours, environ. Maintenant, c'est super important pour les partis religieux, que ce soit Bibi qui passe, et les partis religieux, donc il y a beaucoup, beaucoup de voix pour les partis religieux. Aujourd'hui, c'est très clair. Un temps, c'était qui, quoi, comment, c'était... Ça a toujours été une guerre entre religieux et non-religieux, mais c'était camouflé. Aujourd'hui, c'est très clair. La bagarre, elle est là-dessus. On veut un pays goy ou un pays juif. Alors évidemment, Lieberman, il dit juif, mais pas toraïque, d'accord. Juif goy, d'accord, goy. Non, chrétien, je pense qu'il veut, d'accord. Manger du porc, on peut faire un mariage non religieux, on peut la gay pride bien sûr, les conversions, convertis à tour de bras n'importe comment, bon, deux mots, goy, appelé juif, mais goy. Donc c'est super important que tout le monde soit là. Alors on pose la question au Rav, il y a des gens qui habitent l'étranger, ils n'ont pas le moyen de venir deux fois, ils ne veulent pas venir deux fois en Israël. Alors ils posent la question, ils comptaient venir à Soukhot, les fêtes de Soukhot, c'est bien de venir pour cette fête de pèlerinage, venir en Israël. Qu'est-ce qui est mieux? De venir à Soukhot et pas venir aux élections, ou venir aux élections et ils ne viendront pas à Soukhot. Alors voilà, je suis comme ça. Ce qui est logique. Parce que venir pour Soukhot, ce n'est pas une grande, grande mitzvah. C'est une mitzvah, mais pas si grande. Pas dans les élections, c'est super, c'est le futur du peuple d'Israël. Deuxième question que pose le type juste après. Il dit, qu'est-ce qu'ils mériteront ceux qui vont venir voter? Qu'est-ce qu'ils mériteront? Qu'est-ce que vous répondez, vous? Olam Haba, dernièrement, il y a tout le monde, il a fait beaucoup, il y a beaucoup de yeshivot qui ont demandé, maintenant, il a dit, tous ceux qui donneront, vous donneront, ils verront Mashiach. D'accord, il dit, ça, il dit à tour de... Il réfléchit. Et c'est le scoop, messieurs. Il réfléchit. Il dit... Quelqu'un m'a écrit, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. De quoi on parle? Alors, lui, il a compris ce qu'il nous dit, qu'il m'a écrit. Ils auront de l'argent. C'est-à-dire que si on gagne, alors les coalitions, on a plus d'argent aux élections, tout ça. Mais ce n'est pas le genre du Rav Chaim Kalinsky qui on aura de l'argent. Puis ce n'est pas eux qui auront l'argent en plus. Et déjà, ça sera la coalition, etc. Et puis ce n'est pas son genre. On aura plus de missos, c'est pas, ils auront de l'argent. Peut-être que pour le billet d'avion. Mais c'est pas le genre. C'est bizarre. J'ai demandé des questions à des gens qui connaissent Reb Chaim, tous ils étaient et les yeux écarquillés. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par cela? Et ça m'a fait tilt. Aïe, 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 aïe. Georges Hugo, la crise financière, patatras. On ne sait pas quand ça sort. Ça peut arriver. Tu vas te faire dodo le matin, le soir, tu dois le matin, c'est fini. Toutes les banques sont fermées, très peu rien. Lehman Brothers, c'est une banque qui a coulé et l'État n'a rien fait pour la... Tous les gens, et combien? C'était une vieille banque, des dizaines de milliers de gens là, t'as plus d'argent, t'as... mais j'avais, t'as plus. Alors c'était l'illipucien ça. Toutes les banques, tu vas dormir le soir, puis le matin, ils ferment la banque, deux, trois jours, plus rien. Après ils ouvrent la banque, t'as plus rien, d'évaluation, machin, terminé. Ça peut arriver à chaque moment. S'il y a ça, c'est la fin. C'est peut-être les deux tiers, ou ça peut déclencher une guerre mondiale. C'est évident que ça peut déclencher une guerre mondiale, d'accord? C'est évident. Reb Chaim dit, ceux qui viendront seront ici, ils auront de l'argent. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'ils seront bénis, ils ne vont pas être touchés par la crise? Est-ce que c'est en Israël? Moi, je pense plutôt comme ça, en Israël. Ils vont venir, ils n'ont même pas le temps de repartir. J'espère que c'est comme ça. Je peux me tromper, évidemment. Regardez, je me trompe toujours, je vais me retromper, etc. Ouais, en tout cas, ça fait avancer le chemin public. En fait, je ne me trompe pas, d'accord? On ne sait pas. Mais il se peut tout à fait qu'ils vont arriver ici, t'as la crise financière, et ils sont en Israël, et en Israël il y a une promesse. Vachem, Shochen, Betzion, Dieu demeure à Sion. Il y aura un flux, il y aura un flux. Et c'est ça qui peut d'ailleurs provoquer Gog et Magog. Pourquoi tout que la Russie viendrait avec tous les peuples contre nous? Eux ils sont complètement nous tout va très bien, il y a un truc qui cloche là. Taillot, d'accord? Je ne sais pas, ce sont toutes des projections imaginatives à partir des textes, je ne sais pas ce qui peut se passer. Mais cette réponse de Reb Chaim Kanievski, le grand de la génération, elle est tout à fait incompréhensible. Incompréhensible. La seule compréhension qui est peut-être possible, qui est peut-être vraie, c'est ce que je dis maintenant. Qu'on va vers une crise, et ça, les analystes le disent, et que Bezrat Hashem, en Israël, on ne sera pas touché. En tout cas, touché ou pas touché, Mashiach y vient. Et Bezrat Hashem, donc il faut maintenant, messieurs, faire tchouva. Dans 10 jours, les élections, mais dans 20 jours, Rosh Hashanah, le jugement. Et si ce n'est pas maintenant, il a dit jusqu'à fin 2020. Donc tout va être jugé, tout notre futur l'année prochaine va être jugé à Rosh Hashanah. Ce n'est pas Rosh Hashanah qu'on te juge, mon cher ami, tu viens comme ça comme une fleur. C'est maintenant, si tu te prépares, tu fais tchouva, il ne reste pas beaucoup de temps, 20 jours, 3 semaines, c'est rien. Faire le bilan, commencer à changer, venir à montrer à Dieu, ça va, je vais, j'essaye. Je vais dans ton sens, je fais de mon mieux. Ok, ça va, je te fais passer. Tout va être, c'est maintenant, pas dans 20 jours, messieurs, il faut commencer à travailler maintenant. Ceux qui m'écoutent, maintenant, tu commences, tu finis là, tu prends un papier. D'abord, tu prends ton portable, tu mets un filtre, première chose. Si tu peux, tu le balances, et tant pis pour aller là-bas, ben, tu verras pas. D'accord? Mais c'est beaucoup mieux. Et en tout cas, tu mets un filtre. Et tu prends ton papier, tu notes, voilà, pour l'année prochaine, qu'est-ce qui ne va pas? Ça. Bon, je prends ça, je vais faire des efforts là-dedans. Ils sont aussi, voilà. Tu commences à changer et tu montres. Pas, tu écris sur le papier et puis après c'est terminé. Il faut commencer, tu as 3 semaines maintenant au dessert, on va voir comment c'est. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution. Le Mashiach, il vient par la tchouva. Celui qui n'a pas fait tchouva, ou il ne verra pas Mashiach, ou même s'il voit, mais il sera petit et tout le monde sera très grand. Et va se taper la tête dans les murs, pas 1 an, pas 2 ans, pas 10 ans, pas 100 ans, pas 1 million d'années, pas 1 milliard d'années. Trop tard, Balthazar. fallait te réveiller avant. Que c'est l'histoire. Un jour, il y avait une ville avec des juifs et un cimetière juif. Mais il y avait un kilomètre entre la ville et le cimetière. Le jour d'une guerre, et un pays conquérant a conquis, ils sont jusqu'à la ville. Et ils ont mis la frontière entre la ville et le cimetière. Bon, il y a un mort, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on vient avec le mort comme ça, toute une, le cortège de l'enterrement. Ils arrivent à la frontière, qu'est-ce que c'est? Ben, nous, notre carré juif, il est là-bas, on doit passer. Bon, allez, passez. Ok. De nouveau, dans une semaine après, un type qui va. Bon, douanier, on commence à comprendre que c'est normal. Et bon. Et surtout, les gens malins, ils se sont dit, en profiter. Vu que jamais ils vont vérifier qu'il y a dans le cercueil, bon, on va mettre un peu, on va mettre des cigarettes, on va mettre du cannabis à l'époque, je ne sais pas, d'accord. D'accord, comment la contrebande. Et bon, alors au début, ils allaient comme ça, en train de pleurer, etc. Puis après, ça devient déjà une habitude. Et ils vont un peu souriant comme ça, avec le truc, le douanier un jour dit. Ça sent pas l'enterrement là. Ouvrez. Mais on peut pas ouvrir, on peut pas ouvrir le cercueil. Ouvrez. À jamais. Ils ont ouvert et ils ont vu que c'était le tabac et la contrebande. Qu'est-ce qu'a dit le douanier? S'ils avaient pleuré avant, vous ne serez pas en train de pleurer, vous êtes en train de pleurer maintenant. Celui qui pleure maintenant, il va rire après. Celui qui rit maintenant, il pleurera après. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.